Depuis qu'Ulysse et ses compagnons ont quitté Troie, des étapes sanglantes ont jalonné leur route. 70 d'entre eux ne reverront jamais Ithaque, morts au cours d'escales périlleuses. Leurs compagnons les pleurent. Leur navire avance silencieusement dans une nuit noire, aussi sombre que le cœur des marins. Sélénée, la lune, ne se lève pas, tandis qu'un épais brouillard les environne. Soudain, les voici qui accostent sur une terre inconnue. La coque d'un navire s'échoue sur une plage. Les 11 autres s'amarrent à tâtons autour de lui. Longue est la nuit pour eux qui appréhendent d'avoir atteint une rive hostile. Lorsqu'Aurore se lève, ses rayons rosés chassent la brume et leurs angoisses. Car le paysage qui s'offre à eux est un émerveillement. Des bois touffus, des vallons moussus, de grasses prairies où d'innombrables chèvres sauvages gambadent en liberté. Mais pas une maison, pas une étable, pas un champ de blé. Manifestement, cette île est vierge de toute civilisation. Ni semailles, ni bétail. La nature y est sauvage et primitive. Il n'y a sûrement ici aucun mangeur de pain, se dit Ulysse. Nous avons peu de chances de tomber sur des habitants respectant les dieux et l'obligation d'accueillir l'étranger qui passe. Pour autant, j'ai envie d'en avoir le cœur net. Tandis que ces hommes se régalent de quelques chèvres rôties à la broche, le roi d'Ithaque choisit les 12 compagnons les plus courageux pour s'élancer à la découverte des lieux. Il emporte avec lui un peu de nourriture, une outre de vin et part à l'assaut d'un haut promontoire rocheux qui domine la mer. Il a aperçu au sommet de ce cap une vaste grotte qui pourrait bien être habitée. La pente est raide, mais l'ascension rapide. Quand il pénètre dans la caverne, les marins n'en croient pas leurs yeux. Tout ici est gigantesque. D'énormes fromages sont entreposés sur des claies. Des vases débordent de l'effraie. Des agneaux et des chevreaux sont parqués à l'intérieur. Des litières de paille attendent d'autres bêtes, sans doute sorties pâturer en compagnie du maître des lieux. Ce qui frappe le plus les visiteurs, c'est un énorme tronc d'olivier appuyé contre une paroi. « Il pourrait servir de mât pour un navire de 20 rameurs !» chuchote un homme. Impressionné, l'équipage d'Ulysse n'a guère envie de se trouver face à face avec le propriétaire d'un tel gourdin. « Valeureux Ulysse, ne traînons pas ici. Volons fromage, chevreaux et agneaux et filons d'ici !» supplient les marins. En vain, car le roi d'Ithaque brûle désormais de curiosité. Il ne veut pas partir sans avoir rencontré le sauvage qui vit dans cette grotte. Peu de temps après, le sol se met à trembler. Un pas lourd se fait entendre et une silhouette gigantesque se dresse dans l'ouverture de la caverne. Le géant qui vient d'arriver fait entrer son troupeau et jette un énorme fagot de bois sur le sol. Le fracas est tel que les marins, terrorisés, se précipitent au fond de la grotte. Leur terreur s'accroît lorsqu'un ray de lumière vient frapper son horrible visage. Il ne possède qu'un œil, un œil unique au milieu du front, car ce monstre est un cyclope. Pour l'heure, il n'a pas remarqué la présence de ces étrangers, tout affairés avec ses brebis et ses chèvres. Les mains du cyclope sont immenses, mais elles traient avec délicatesse le pis des animaux, faisant gicler un lait mousseux dans de larges récipients. Lorsqu'il a fini sa besogne, le cyclope s'étire, puis obstrue l'entrée de sa caverne en y plaçant un énorme rocher de la taille exacte de l'ouverture. Voilà Ulysse et ses hommes piégés à l'intérieur. Le géant se penche vers son fagot de bois et allume le feu. Les hautes flammes projettent des ombres menaçantes sur les parois, tout en éclairant jusqu'au fond de la grotte. Le cyclope sursaute. Il vient de découvrir la présence de ses hôtes clandestins. « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Êtes-vous de paisibles marchands ou bien des pirates écumant les mers à la recherche d'un mauvais coup à faire ?» leur demande-t-il. Sa voix retentissante résonne dans la caverne, mais ses propos semblent inoffensifs. Ulysse s'enhardit. Il lui répond « Nous sommes des Achéens. Nous venons de gagner la guerre de Troie et faisons route de retour vers notre patrie. Les dieux nous ont conduits chez toi et nous espérons que tu vas nous offrir l'hospitalité comme il se doit, puisque Zeus exige que tout étranger soit accueilli avec empressement et respect. » À ces mots, le cyclope part d'un énorme éclat de rire, aussi tonitruant qu'un roulement de tonnerre. « Tu me parles de Zeus ? Mais les cyclopes n'ont que faire des dieux et de leurs simagrées. Nous sommes plus forts qu'eux. Je m'appelle Polyphème. Je suis fils de Poséidon. Je n'ai pas peur du roi de l'Olympe. La loi, c'est moi qui la décide. Je ferai de vous ce que bon me semble. » Et sans prévenir, il attrape entre ses gros doigts deux de ses visiteurs, les jette sur le sol pour leur fracasser le crâne, puis les croque pour son repas. L'épouvante d'Ulysse et de ses hommes est totale. Mais le cyclope n'a manifestement plus faim. Il ingurgite encore quelques litres de lait, puis s'allonge sans méfiance et se met à ronfler. Le premier réflexe d'Ulysse est de profiter du sommeil de la brute pour lui planter son épée dans le cœur. Las, il retient son geste juste à temps, car s'il tue le cyclope, jamais ils ne pourront déplacer la lourde pierre qui bloque l'entrée de la grotte. Cette nuit-là, ni Ulysse ni ses compagnons ne parviennent à trouver le sommeil, tant leur situation semble désespérée. Le roi d'Ithaque se maudit de sa curiosité et cherche une ruse pour échapper au colosse. Car ce cyclope semble plus bête que méchant, et peut-être est-il possible de profiter de sa naïveté ? À l'aube, Ulysse n'a toujours trouvé aucune issue à la situation désastreuse dans laquelle son imprudence a entraîné son équipage. Le cyclope se réveille et se met à traire ses bêtes. Puis, avec des gestes délicats, il place les agneaux et les chevreaux sous le pied de leur mère et les regarde téter avec tendresse. Se souvenant soudain de la présence des étrangers chez lui, il en attrape deux négligemment et les avale pour son petit déjeuner. Ainsi rassasié, il pousse le rocher, fait sortir son troupeau et le replace comme le couvercle d'un tombeau. Les heures passent. Les hommes sanglotent de peur. Ulysse tourne en rond dans la caverne. Soudain, son pied heurte le tronc d'olivier posé contre une paroi et une idée lui vient enfin. « Cessez de vous lamenter, mes amis, et venez m'aider » crie-t-il. Il saisit la massue du cyclope, en coupe un gros tronçon, demande aux uns et aux autres de l'aider et taille le bout de bois en une pointe acérée. Puis il la durcit en la passant dans le feu avant de dissimuler cette arme sous un tas de fumier. Lorsque le cyclope revient, la ruse d'Ulysse est prête. Les bêlements joyeux des chèvres et des brebis rentrant au bercail résonnent dans la caverne, annonçant l'arrivée de Polyphème. Le retour du géant s'accompagne des mêmes gestes de berger attentionné avec ses bêtes et de la même cruauté à l'égard des humains, puisqu'il saisit à nouveau deux hommes pour les dévorer à belles dents. Ulysse s'approche alors bravement et lui tend son outre de vin. « Cyclope, j'avais apporté ceci en cadeau pour te remercier de tes présents et de ton hospitalité. Tiens, bois ce vin, même si tu te comportes comme un barbare injuste et sans cœur. » Polyphème, empli de gourmandise et de curiosité, attrape vivement la coupe tendue par Ulysse et la vide d'un trait. Comme cette boisson est exquise, un vrai nectar. Le cyclope, qui boit un vin aussi délicieux pour la première fois, en redemande aussitôt. « S'il te plaît, verse-moi encore un peu, j'adore ce breuvage. Et dis-moi quel est ton nom, mon cher ami, ainsi je pourrai te faire un cadeau pour te remercier. » Sans répondre, Ulysse remplit à nouveau sa coupe. Le vin est puissant. Polyphème ne se méfie pas et se laisse servir trois fois de suite. Bientôt, les vapeurs de l'alcool embrument son cerveau. « Tu voulais connaître mon nom, Cyclope ?» lui dit alors Ulysse. « Eh bien, mes parents m'ont appelé personne. Tu me dois un cadeau maintenant, n'est-ce pas ?» Polyphème ricane et répond. « Mon cher personne, voici mon présent, je te croquerai en dernier. » Un rire d'ivrogne secoue sa grande carcasse et le voilà qui s'écroule sur le sol, vaincu par l'ivresse. C'est ce qu'Ulysse espérait. Il s'approche du cyclope, qui est agité par de profonds ronflements. Le géant dort, couché sur le dos. C'est le moment d'agir. Les rescapés saisissent ensemble le pieu acéré qu'ils ont fabriqué, le plongent dans les braises brûlantes du feu et, doté d'un courage extraordinaire, il le plante et l'enfonce profondément dans l'unique œil de Polyphème. Un rugissement de douleur ébranle les parois de la caverne. Aveuglé, le cyclope arrache le pieu qui vient de lui crever l'œil, puis, tout en appelant à l'aide, cherche à tâtons à attraper ses assaillants. En vain. Cependant, ses cris ameutent les autres cyclopes qui vivent dans les grottes alentour. Ils accourent et le questionnent, inquiets. « Que t'arrive-t-il, Polyphème ? Tu cries comme si on t'égorgeait. Quelqu'un te veut du mal ? De qui s'agit-il ? » Le cyclope, qui se tord de douleur, leur répond « Au secours, mes amis, c'est personne. Personne me tue. » À ces mots, les cyclopes restés à l'extérieur de la caverne se regardent, haussent les épaules et se frappent le front. « Si c'est personne, cher voisin, crie l'un d'eux, tu ferais mieux de te soigner et de ne pas nous réveiller en pleine nuit. » Et ils rentrent tous se coucher. Mais les Grecs savent qu'ils ne sont pas pour autant sortis d'affaire. Le reste de la nuit est empli de gémissements, ceux du géant aveugle et ceux des marins perdus. À l'aube, les bêtes commencent à s'agiter. Polyphème, tout en pleurant son œil mort, déplace la grosse pierre afin de faire sortir son troupeau. Mais il s'assoit devant l'entrée de la grotte en écartant les bras, bien décidé à ne pas laisser ses agresseurs s'enfuir. Les hommes jettent des regards suppliants vers Ulysse. Celui-ci leur fait un geste rassurant. Il a un plan. Il saisit trois béliers à l'épaisse toison, les attache ensemble avec de longues tiges d'osier qui servent de paillasse aux cyclopes. Ainsi, les bêtes sortiront trois par trois. Il suffit dès lors de ficeler un homme sous le ventre de l'animal au centre du trio et le tour est joué. Avant de laisser ses moutons sortir, Polyphème, qui se méfie, passe ses grosses mains sur leur dos pour s'assurer qu'aucun homme ne les chevauche. Cachés sous le ventre des bêtes, les hommes retiennent leur souffle, mais les doigts du géant aveugle les frôlent sans les toucher. Sauvés ! Ils sont sauvés ! Seul Ulysse est encore dans la grotte. Le roi d'Ithaque s'est approché du plus majestueux bélier du troupeau. Sa laine, d'un noir profond, est si longue qu'Ulysse décide de s'y agripper à main nue. Il se glisse sous son ventre juste avant que l'animal se décide à franchir le seuil de la grotte. Mais Polyphème le retient. Il caresse sa douce laine en versant des larmes. « Tu pars toujours en tête, mon doux bélier. Comment se fait-il que tu sortes le dernier aujourd'hui ? Es-tu triste de voir ton gentil maître rendu aveugle par les fourberies de ce personne ? Ah, si j'attrape ce gredin, je le réduis en bouillie, lui fais gicler la cervelle comme aux autres. Hélas, jamais plus je ne pourrai regarder les tendres yeux humides se poser sur moi. Jamais plus je ne verrai le soleil. » Tout en se lamentant, Polyphème laisse le bélier noir sortir gambadé dans la prairie sans découvrir Ulysse sous son ventre. C'est à toutes jambes que les sept rescapés courent rejoindre leur navire. Ulysse coupe court aux embrassades et ordonne que chacun rame avec vigueur pour s'éloigner de ce rivage maudit. Sa colère et sa douleur d'avoir vu six de ses compagnons se faire dévorer se mêlent à l'exaltation d'avoir triomphé du géant. Le voilà qui, perdant toute mesure, apostrophe le cyclope depuis la proue de son navire. « Polyphème, monstre sanguinaire que tu es, tu n'es qu'un sauvage. Les dieux t'ont puni pour avoir manqué d'hospitalité envers des étrangers de passage. » Les cris de triomphe d'Ulysse rendent Polyphème fou de rage. Il attrape un énorme rocher et le jette dans la mer en hurlant. « Personne, tu n'es qu'un lâche !» Le projectile manque de peu le bateau. Les marins, affolés, tentent de faire taire Ulysse. Mais rien ne l'arrête. Si on te demande qui t'a aussi honteusement ôté la vue, n'hésite pas à dire qu'il s'agit d'un héros de la guerre de Troie, Ulysse lui-même, fils de Laerte et roi d'Ithaque. Alors, le cyclope dresse ses poings vers le ciel et hurle. Poséidon, dieu des océans, aussi vrai que tu es mon père, je t'en supplie, venge-moi. Que ta malédiction s'abatte sur Ulysse. Fais qu'il ne puisse jamais rentrer chez lui. Ou bien alors après de terrifiantes épreuves, et qu'il regagne sa patrie seul, pour n'y trouver que désolation. » Devenu soudain très pâle, Ulysse fixe la silhouette du colosse qui s'amenuise au fur et à mesure que son navire s'éloigne. Il réalise, un peu tard, que ces fanfaronnades font prendre un risque démesuré à son expédition de retour. Car si Poséidon exauce le vœu de son fils, le plus terrible reste à venir. Il y a des paroles que tu regrettes aussitôt prononcées, n'est-ce pas ? Eh bien, ce fut mon cas, et je m'en suis voulu d'avoir montré tant d'orgueil envers Polyphème. Comme si cela ne me suffisait pas d'avoir triomphé d'un plus fort que moi, il a fallu que je le nargue. Autant avouer que ce jour-là, ma ruse légendaire m'a fait défaut. Car en criant mon nom à la face du cyclope que je venais de rendre cruellement aveugle, je me suis attiré la colère de son père. Dès lors, Poséidon ne m'a plus lâché. Et mon séjour sur les mers est devenu plus que jamais un supplice. Imagine-toi que nous fûmes d'abord accueillis chaleureusement chez lui par Éole, le dieu des vents. Il m'offrit une outre, dans laquelle il avait enfermé tous les vents tempétueux et fit souffler une douce brise en direction de ma terre natale pour guider nos bateaux. 12 jours après, j'aperçus, fou de joie, les côtes d'Ithaque. Je lâchais enfin mon gouvernail pour me reposer. Hélas, pendant ma sieste, mes compagnons me trahirent. Ces imbéciles, persuadés que le cadeau d'Éole était un trésor, l'ouvrirent et laissèrent ainsi échapper les vents furieux. Inutile de te dire que, lorsque je rouvris les yeux, c'était trop tard. Un ouragan nous avait emportés bien loin de chez nous. Nous avons à nouveau échoué chez Éole, mais cette fois-ci, il me chassa violemment. Il avait entre-temps appris la malédiction que Poséidon faisait peser sur ma tête. L'escale suivante, au pays des Lestrigons, se termina en un bain de sang. Je perdis 11 de mes navires, coulés sous un déluge de rochers. Il ne me restait plus qu'un seul bateau avec une poignée de rameurs à bord, lorsque nous avons accosté sur une île bien étrange.